Salut à toutes et à tous, si vous nous rejoignez, bienvenue sur Radio Campus Amiens, vous écoutez Info Club Sandwich, votre quotidienne d'actu locale et associative. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Rémi. Salut Rémi.
Salut.
T'es un homme vraiment multitâche puisque t'es à la fois derrière la console et derrière le micro pour nous parler de l'actu locale en seconde partie d'émission.
Tout à fait, on va parler des différents spectacles qui arrivent à Amiens à l'approche de Noël.
Nickel. On va patienter un peu et on va commencer avec notre invité du jour qui est Lynn Rodien, coordinatrice du dispositif En voiture Nina et Simone. Je l'ai rencontrée un peu plus tôt et elle est venue nous parler de son van jaune un peu particulier. Bonjour à toi.
Bonjour.
Tu es venue nous parler de ce van jaune un peu particulier. Dis-moi tout.
Alors, c'est un van jaune qui est un dispositif itinérant qui sillonne les routes du département de la Somme, mais qui à la base a été imaginé à la sortie du confinement, donc en 2021, dans les Hauts-de-France.
Concrètement, comment ça marche ? Il se pose où ? Il va dans un endroit stratégique de la commune ? Il se pose pendant une journée, c'est ça ?
Alors non, pas forcément. Il se pose, alors un maximum de temps, c'est entre 2h30 et 3h, ou voire toute la journée si c'est sur un événement fort, un temps festif. Et en fait, c'est un dispositif qui se déplace sur sollicitation de la part de partenaires qui estiment avoir le besoin, dans le cadre d'une action de prévention ou de sensibilisation liée aux questions des VSS en général, d'avoir un outil pour accueillir des personnes, informer et sensibiliser un public, le tout venant.
Alors, voilà. Qui vous sollicite ? C'est les communes ? C'est qui ?
C'est voilà, les communes, ouais, les structures associatives, ça ouais. peut être, on est en plus aussi des partenaires du privé, par exemple des festivals, ou bien même des entreprises qui potentiellement vous souhaiteraient que c'est... Parce qu'en fait, l'outil, c'est imaginé comme un accueil de jour itinérant. D'accord. Ouais. Donc quand il se pose là, il propose un bureau, un espace ouvert, assez cosy et puis en même temps contenant, qui permet de poser des questions, voire même de pouvoir raconter des choses quand c'est nécessaire.
Oui, parce qu'en plus les champs sont très variés puisque ça va de la violence faite aux femmes à l'insertion, à la création d'entreprises, ouais. c'est très vaste.
Ouais, l'idée des thématiques c'était donc la question de l'égalité homme-femme, la question du genre, la vie affective et sexuelle, les violences, la vie de couple, les discriminations et donc comme tu disais l'accès aux droits qui s'y rapportent, à toutes ces thématiques en fait.
Et alors du coup, qui intervient dans le van ?
Ce sont des travailleurs sociaux, d'accord.
Donc, et qui sont formés à ces différentes thématiques.
Qui sont formés à la question, en effet, de toutes les thématiques ici présentes, qui sont salariés de l'association Agena. Mais ça peut être également les partenaires qui nous sollicitent, qui potentiellement, imaginons par exemple une maison des solidarités, une MDSI, qui souhaiterait, dans le cadre d'une permanence de PMI, nous faire venir, peuvent elles aussi, en tant que puéricultrice ou assistante sociale, se poser dans le van et proposer aussi un temps d'écoute et voire d'orientation. Ouais. C'est un outil à mutualiser en fait au final. L'idée c'est de travailler ensemble pour lutter contre les violences intrafamiliales. C'est un outil qui est aussi à disposition du réseau d'acteurs du département de la Somme.
Voilà. Et ça s'adresse à qui du coup ? Uniquement aux femmes ?
Pas du tout. Ça s'adresse à tout public. C'est vraiment la particularité de ce dispositif. Donc en effet, comme tu sais, au niveau de l'association Agena, nous accueillons à l'intérieur de nos murs, nous avons des hébergements que pour les femmes, seules ou accompagnées d'enfants. Et par contre, ce dispositif est un dispositif donc, qui est mixte, qui accueille aussi des hommes. L'idée, c'est de pouvoir proposer un espace donc, pour les victimes, mais aussi pour les proches des victimes de violences conjugales ou intrafamiliales, ou de violences sexuelles, ou de discrimination liées aussi à l'orientation du genre, aux orientations sexuelles. Ouais. Voilà.
Comment elle est née, cette initiative, ce dispositif ?
Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est à la sortie du confinement. Ouais. En fait, je ne sais pas si tu te souviens, mais il avait été proposé de créer dans les centres commerciaux des points info-écoute.
Non, donc, je t'avouerai que je m'en souviens pas.
Donc, il y avait eu des points info-écoute dans les grands supermarchés. Donc, il y en avait eu à Amiens, au niveau d'Auchan et à Agena. Et donc, du coup, avait tenu ces points info-écoute. Mais aussi dans le Nord, donc à Villeneuve-d'Ascq, il y avait un grand centre commercial. Et beaucoup d'associations s'étaient relayées pour pouvoir tenir ce temps. et permettre du coup aux victimes à cette période-là de pouvoir peut-être trouver un échappatoire ou voir des informations, pouvoir sortir de l'enfermement dans lequel elles pouvaient se retrouver liées au confinement. Et donc à l'issue, l'idée c'est de se dire, ben ok, il y a des femmes qui viennent jusqu'aux centres commerciaux, c'est vrai, mais il y a des femmes qui ne viennent même pas jusqu'aux centres commerciaux, des femmes qui ne viennent même pas non plus jusqu'aux structures spécialisées. Donc en fait, s'il faut aller à la rencontre de ces personnes-là et leur dire qu'on existe, leur dire qu'il y a des possibilités de sortir des violences ou en tout cas de mettre un terme par toutes les façons que ce soit, légales, pour sortir de ces situations.
Il y a l'aspect aussi peut-être de la ruralité, le fait que vous
Exactement.
Alliez en dehors de la ville.
Donc, la plus grande majorité de nos interventions se passe en milieu rural. Donc, c'est vraiment l'objectif d'aller vers le public le plus isolé. Et d'autant qu'on a bien conscience, en fait, au regard des violences, et notamment sur la question, en fait, des féminicides, hein, parce que c'est de ça aussi dont on parle quand on est avec ce dispositif, c'est qu'il y a le sentiment d'illégitimité qui peut bien souvent être présent en milieu rural quand les personnes sont éloignées des services spécialisés où les informations ne sont pas toujours accessibles, et donc avoir le sentiment qu'au final ce qu'elles vivent, eh ben en fait c'est peut-être pas si grave, ou en tout cas elles ne sont pas autorisées à en parler. Et alors que ben on y va parce que ça existe, et parce que tout un chacun, chacune, on peut être amené à peut-être aussi être témoin, et qu'on est légitime aussi en tant que témoin de pouvoir peut-être apporter une parole, une écoute ou un numéro de téléphone ou une information adaptée.
J'imagine que c'est pas un one shot puisque c'est un travail qui doit se faire, c'est un travail de longue haleine, j'imagine, puisqu'il faut arriver à établir un lien de confiance.
Tout à fait.
Du coup, quelle rythmicité, par exemple, si je prends un village autour d'Amiens, vous y allez combien de fois dans l'année pour pouvoir justement arriver à faire ce travail?
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à la base, l'idée du projet, enfin le dispositif, quand il a été pensé, c'était du one shot. C'était on y va, on se pose, on discute et on s'en va. Il y a quelque chose qui est intéressant à l'intérieur de ça, parce que ça permet aussi aux personnes de se dire, bon ben voilà, je peux le dire, je peux parler, et puis plus jamais cette personne ou ce dispositif ne sera là. Donc il y a aussi quelque chose qui est de, on est au cœur de l'intime, mais juste l'espace d'un instant, et ça peut aussi permettre. Mais en même temps, fort de notre expérience de terrain, d'associations spécialisées, dans le cadre des coordinations des VAN, des Hauts-de-France, on s'est quand même rendu compte que pour pouvoir approcher une victime, pour pouvoir lui dire que on te croit, je te crois, tu n'es pas seule, hein, qui est pas seulement un slogan mais qui est aussi le début d'une prise en charge, et ben en fait c'est extrêmement important d'apprivoiser l'espace, d'apprivoiser le terrain, et ça se fait en y allant plusieurs fois, quoi, parce que la première fois elle voit le jaune, elle voit le numéro,
c'est ça.
La deuxième fois elle voit la personne, et peut-être que la troisième ou la quatrième fois, on sait, hein, le nombre de fois que les femmes ont besoin de faire des allers-retours pour
c'est
partir.
Clair. Mais j'imagine en plus le choix du van jaune, le fait qu'il soit aussi visible, c'est pour être repéré rapidement.
Tout à fait.
Ouais.
On assume, ça existe, on va plus se cacher pour...
Ouais, c'est vachement bien. Donc le dispositif, il est porté au niveau national par le ministère à l'égalité, régional par la direction régionale aux droits des femmes et à l'égalité, et localement du coup par AGENA,
Tout
c'est
à
ça
fait. Ouais, c'est ça, c'est l'association, c'est nous qui avons proposé, parce qu'au niveau de l'association on a de différents services, et ça c'est notre dernier service de prévention en fait, hein, qui s'étoffe avec ce dispositif. Positif itinérant.
Vous êtes parti de quel constat pour créer, en fait, alors pas forcément toi, hein, mais de quel constat est parti justement le dispositif? Donc comme tu l'as déjà dit, tu as déjà répondu à cette question, hein, le fait que justement la parole soit pas très libérée, qu'il y ait encore un manque aussi de sensibilisation dans le milieu rural. Mais quel est-il sinon, puisque je vois par exemple au niveau de l'insertion?
Oui, au niveau de l'insertion, mais c'est surtout vraiment quand tu dis le constat, en fait nous on l'avait au niveau, ce constat-là, au niveau, et même nous, enfin moi j'ai travaillé pendant très longtemps, plus d'une dizaine d'années, au service d'hébergement d'urgence de l'association, et les collègues et moi-même, le nombre de femmes qu'on a accueillies qui sortaient de 40 ans, 50 ans de violence, et qui nous disaient, en fait, si j'avais su qu'AGENA existait, alors qu'en fait elles habitent là à 30 km, et qu'AGENA existe depuis 76, et en fait on aurait n'aurait pas vécu ça, nos enfants n'auraient pas vécu ça, on n'aurait pas eu à subir ça, etc. Donc quand le projet est arrivé, au final, ça a été une évidence pour toute l'association, je pense, et notamment, en tout cas pour moi-même, de dire bah, « il faut y aller, c'est maintenant, en fait. Il faut que tout le monde sache que ça existe, que c'est pas inéluctable, qu'on peut, en tout cas, apporter du soutien en s'organisant. » Voilà.
Donc, vous êtes présent donc, au milieu rural, dans la ville, et vous avez également visé un public estudiantin. Vous êtes rapproché des étudiants. Est-ce que tu peux m'en parler, justement?
Oui, alors ça, c'est le projet, l'actualité hein, du VAN, qui, le 25 novembre dernier, s'est posé dans le cadre d'une inauguration au niveau de l'UPJV. En partenariat donc, avec l'UPJV, il y a eu l'idée de créer un espace, donc vraiment similaire, pensé comme le VAN, mais cette fois posé au sein des murs de l'université à destination des étudiants. Voilà. Parce que c'était un constat, pour le coup, qui était fait par l'université, et notamment par les délégués à l'égalité au sein de l'université, Marine Fleury, qui interviennent aussi, qui font partenaire, l'UPJV est partenaire du réseau d'acteurs de lutte contre les violences en faveur des victimes de violences intrafamiliales. Et donc, dans le cadre de ces échanges, l'idée, c'était de se dire, voilà, ce dispositif, il existe. Des fois, le VAN vient à la fac, mais peut-être qu'il pourrait être là de façon beaucoup plus régulière, voire pérenne. L'université avait aussi pour projet de créer un espace vraiment dédié aux étudiants et porté par les étudiants. Donc la maison Nina Simone est un tiers-lieu qui est partagé donc, entre les différentes associations étudiantes qui ont envie de s'y investir, toujours dans la thématique justement de travailler la question de l'égalité et de lutter contre les VSS. Et à ce titre, nous, on intervient en tant que professionnels, voilà, pour animer cet espace.
Est-ce qu'il y a des jours
Oui, la maison Nina Simone donc, est ouverte. Donc pour l'instant, cet espace est situé sur la Citadelle. L'idée, c'est qu'après, ce soit multiplié dans les autres sites de l'UPJV. Et c'est ouvert les mardis et les jeudis, donc le matin de 11h à 14h et l'après-midi de 16h à 19h. Il y a des ateliers qui sont prévus, donc mis en place soit par des étudiants, soit par des professionnels extérieurs. L'idée est de penser un lieu attractif, mais également porteur, porteur, et puis un lieu de travail et de création. Quoi.
Cet été, le VAN a sillonné le littoral. Est-ce que tu peux nous en parler aussi de ça?
Alors, comme je disais tout à l'heure, le VAN, il intervient que sur sollicitation. Et pour autant, on s'est rendu compte qu'il y a des coins du département où il y a très peu de sollicitations. Et pour autant, on sait... Oui. Qu'il y a des personnes qui sont dans le besoin pour accueillir des personnes issues de ces territoires au sein de nos hébergements d'urgence. Donc avec les autres VAN des Hauts-de-France, on a imaginé de faire un projet un petit peu peut-être sorti de notre propre poche, à savoir le VAN à la plage. Et donc l'idée c'était de sillonner le littoral, donc de Mers-les-Bains jusqu'à la frontière belge, et puis le tour des lacs dans l'Aisne, et de proposer un temps un peu estival, parce que l'été c'est aussi la période... où les gens se détendent, peut-être se dénudent, peut-être se laissent aller, ou peut-être ont envie de respirer, et que les personnes doivent avoir le droit de respirer en toute tranquillité.
Je m'étonne. Est-ce que le bilan est plutôt positif de cette initiative?
Oui, c'était extrêmement intéressant, parce que du coup, c'était sur 10 jours au niveau du département de la Somme. C'est nous qui avons commencé le bal, si je peux dire, donc à Mers-les-Bains. Donc en 10 jours, on a eu 12 interventions, c'est-à-dire plus d'une intervention par jour. On a pu rencontrer 259 personnes. Donc quand je dis rencontrer, c'est vraiment des personnes avec qui on a discuté, à qui on a donné de l'information, qu'on a pu orienter, voire même qu'on a pu recevoir dans le dispositif itinérant, et protéger au niveau de nos hébergements des personnes qui ont été victimes et qui, grâce à ces temps, ont pu être secourues presque en direct, en fait. La possibilité qu'on a à Genas, c'est de pouvoir après débloquer rapidement les autres services. Et puis donc du coup, 24 orientations concrètes au-delà de notre prise en charge à nous, au niveau associatif.
Du coup, si ce bilan est plus que positif, est-ce que vous allez le reconduire?
Carrément, on aimerait beaucoup. En fait, c'était surtout très chouette parce qu'il y a deux associations qui, donc, du coup, se sont prêtées au jeu, à savoir le Planning Familial 80 et puis Femmes Solidaires. Et donc, elles sont venues avec nous parce que l'idée, c'est ça. C'est-à-dire que nous, à Géna et Levan, on y va, mais c'est intéressant d'avoir des partenaires. Femmes Solidaires étant investies au niveau Femmes Solidaires Abbeville avait créé un nouveau collectif sur Abbeville. Et donc, l'idée, c'était pour elles aussi d'être au plus près de leur propre territoire. Et puis, le Planning Familial qui sont toujours extrêmement guidons et motivés pour toutes ces actions de prévention. Et donc, elles sont partantes, bien évidemment, pour retourner à sillonner les plages et voire même les campings. On a plein d'autres idées. Il faut maintenant que ça se concrétise.
Vous travaillez avec les autres vannes de la région, et puisque en plus maintenant il est présent, le fameux van jaune est présent un peu partout en France. On le retrouve en Bretagne, on le retrouve, tu me disais, dans d'autres régions.
Ouais, en Bourgogne-Franche-Comté par exemple, en Martinique, sur l'île de la Réunion.
Est-ce que tu penses d'ailleurs qu'il va être présent partout sur l'Hexagone d'ici quelques années?
Nous, on aimerait beaucoup. Et je pense que les vannes des Hauts-de-France seraient très fiers de se dire que c'est né ici. Et je pense aux collègues de la DRDFE qui ont imaginé cet outil et qui maintenant pourraient... Ça devrait, en fait, être une référence. Ça serait chouette de se dire, y a un van jaune qui passe. On n'est pas la poste, mais on est quand même des messagers des solutions qui existent pour sortir des violences.
Et vous travaillez en réseau?
Oui, alors on a des coordinations avec les vannes des Hauts-de-France. On essaye à peu près une fois tous les trimestres, on se rend compte et on fait le point sur... c'est comme ça aussi qu'on avance, parce que c'est un projet qui est né et il a fallu aussi après, au fur et à mesure de nos expériences, réajuster aussi. Et puis on travaille également en coordination. Il y a beaucoup de CIDFF qui se sont aussi positionnés sur cet outil. Donc notamment dans l'Aisne et le Pas-de-Calais, c'est le CIDFF local qui dispose de l'outil. Et donc on a des rencontres au niveau national de visio en fait avec les autres conductrices de vannes et pour échanger et puis partager en fait nos savoirs.
Et alors comment est-ce qu'on peut connaître un peu l'itinéraire du fameux van?
Le van, alors on communique par essentiellement les réseaux sociaux, donc Facebook et puis Instagram. À chaque fin de mois, on informe et on publie le calendrier du van pour le mois suivant. Souvent les derniers jours du mois, on peut avoir ça, ou les premiers jours du mois, et savoir où est-ce qu'on va.
Oui, bien. Un dernier mot, sur le nom, bien évidemment. Je crois qu'il y a un lien avec deux grandes figures féminines.
Oui, alors il y a Simone, c'est en lien à toutes les Simones qui ont lutté pour le droit des femmes. Notamment Simone Veil, mais aussi la philosophe Simone Veil, et également après Simone de la Forêt, qui est en fait une conductrice automobile qui a gagné des prix au début du siècle dernier. Ce sont des femmes dont on a dit pendant longtemps, c'est des femmes qui ont été effacées de l'histoire. Et l'idée, en fait, de l'expression en voiture Simone, en fait, elle vient de là. Elle a créé une auto-école après, et elle a appris à des personnes à conduire, et notamment à des femmes. Et donc, c'est aussi rendre honneur un petit peu à toutes les personnes, aux pionnières, exactement.
Merci beaucoup, Lynn, d'être venue au micro de Radio Campus Amiens nous présenter En voiture, Nina et Simone. Simone, je précise, c'est Simon. Pour connaître l'itinéraire du fameux van jaune, rendez-vous sur donc Facebook Nina et Simone 80 et sur Insta Nina et Simon ES, vous avez compris, 80 tout attaché. De toute façon, vous retrouverez toutes les informations sur le site de Radio Campus Amiens, ça sera peut-être un peu plus clair pour vous. Merci beaucoup à toi, Aline.
Merci à toi.
Avant de découvrir la sélection d'actu de Rémi, on s'écoute un petit Strokes, I Can't Win.
Do it, get do it, all your life and you never
toujours sur Radio Campus Amiens 87.7 et vous écoutez Info Club Sandwich, votre quotidienne d'actu locale et associative. Et justement, voici venu le temps des actus. Merci. Vas-y, à toi Rémi, pardon, j'allais les faire.
C'est pour moi cette fois les brèves. J'ai repéré une première actu qui a lieu ce vendredi 20 décembre. C'est l'ensemble vocal Ambiani qui vous propose un concert dans l'église Saint-Martin à Amiens. Sous la direction de François Joron et avec la participation de l'orchestre de Picardie, l'ensemble interprétera des œuvres d'Henri Purcell, dont Te Deum et Anthem. Les tarifs de cette représentation sont de 12 € pour les adultes et de 6 € en tarif réduit pour les enfants et les mineurs de moins de 18 ans. Pour rappel, l'église Saint-Martin se trouve rue Créton à Amiens, au cœur du quartier Henriville. J'ai repéré une autre actu qui cette fois-ci concerne un spectacle de marionnettes. En effet, le théâtre Chez Cabotin d'Amiens vous propose un de leurs grands classiques par temps de fête. Il s'agit du spectacle Le Réveillon de la Fleur qui sera joué à partir du 22 décembre 2024. Vous allez me dire de quoi il s'agit, je vais vous lire un petit peu le pitch. Donc on est le soir de Noël et la fleur n'a pas hésité à copieusement réveillonner avant l'heure au grand désespoir de son épouse Sandrine. S'ensuit donc un spectacle rythmé dans lequel les personnages, caractère bien trempé de nos héros picards sauront vous réchauffer à grands coups d'éclats de rire. C'est un spectacle d'une durée de 45 minutes pour les petits comme pour les grands. Vous avez un tarif adulte qui est à 10 €, tandis que celui pour les enfants est à 5 €. Les représentations, elles ont lieu au théâtre Chez Cabotin d'Amiens le 22 décembre 2024 à 15 h, le 2 janvier 2025 à 15 h également, et le 4 janvier 2025 aussi à 15 h.
Un grand coup d'éclat de rire.
Oui,
ça m'a plu,
exactement.
Ça. Tu vends du
On
rêve.
On les connaît, hein, les personnages de la fleur en général, ils n'hésitent pas à s'éclater un petit peu. J'ai repéré une autre actu du côté de la Maison du Théâtre. Elle a lieu les 9 et 10 janvier 2025. Il s'agit du spectacle Le Petit Musée des Horreurs dites Ordinaires de Fanchon-Guy Vic. C'est un spectacle qui est programmé en partenariat avec le TATSAB chez Pense Verte, le Centre National de la Marionnette, dans le cadre de leur saison itinérante Marionnette en Chemin. Concrètement, le spectacle consiste en une visite guidée d'un musée horrifique qui est menée par un personnage qui s'appelle Émilie et qui est jouée, interprétée par Fanchon Guy Vic. Et au fil de vos déambulations, vous allez découvrir des scènes qui justement relatent deux violences conjugales. Et l'idée, c'est de vous questionner sur ce sujet-là et de vous y sensibiliser. Les représentations auront lieu les 9 et 10 janvier à 15 h 30, 18 h 30, 19 h 30, 20 h 30 et 21 h 30. Ça vous laisse de nombreuses occasions d'assister à cette pièce de théâtre.
Bah merci beaucoup Rémi. Avant de se quitter, je vous conseille vivement d'écouter juste après l'émission le tout dernier podcast de la série Oh les filles, qui nous parle de la place des femmes dans la société. On se quitte comme toujours en musique avec Malade de Soro.
Ce sera pour un autre son. J'écris celui-ci car je me sens vide de sens. Ce soir je dors pas, je me morfonds. Je croyais qu'elle m'avait soigné, mais en vérité le beau temps n'a duré qu'une semaine. Me lâche pas d'une semelle, s'il te plaît, mon futur me pétrifie, bébé, me laisse pas tout seul. Je suis bien entouré, mais tout est tellement flou. J'ai pas parlé de mes sentiments, alors j'écris des sons, mais le monde entier s'en fout. La crise d'angoisse est lancinante. 25 ans de succession d'échecs, la fille que j'aime est trop bien pour moi. J'ai qu'elle m'aime aussi, mais j'ai que je suis dur à vivre. Et un jour, sans un doute, son amour s'évaporera. Y'a rien à faire, je suis insauvable. Donc j'y vais fort sur le dosage. Quand je monte sur scène, je suis un sauvage. Dès que je redescends après la collade, l'humeur est maussade, merde. J'ai 20 bros à lâcher, vous êtes mon shrink. 5 bros à craquer, faudrait que je couais. Un chrome à claquer, faudrait que je drip. 0 MC à marquer, je fly sur ces tubes. Le réel est fade, alors je m'évade. Plié dans mon canapé, mon cendrier plein, mon tablier crade. Il paraît que je suis malade, mais je bosse pour un jour pouvoir brandir les crins. Cette fille mérite tout et à vrai dire j'ai rien à lui offrir. Je suis nocif pour elle, donc j'ai le motif pour pète, je suis prêt. Le réel est fade, alors je m'évade. Plié dans mon canap, mon cendrier plein, mon tablier crade. Il paraît que je suis malade. Le réel est fade, plié dans mon canap, mon cendrier plein, mon tablier crade. Il paraît que je suis malade. C'est c'était prédit, c'était perdu d'avance. Encore un coup dans le cœur et la tête en pâtit. J'ai encore laissé passer ma chance. Putain, encore une croix sur le tableau, encore une brique dans le mur. Encore une fois sur le carreau, encore une nuit dans le pur. C'est pas grave, ça fera une belle chanson. De toute façon, je suis peut-être chanceux. Je veux que le flou s'estompe et merci, ils sont là. Je sais pas ce que je reste sans eux. Mes sœurs, mes frères qui me poussent la falaise. Les seuls qui ont remarqué mes ailes, enfin je crois. Et puis dans ses bras, je me sentais mal à l'aise. Parfois, faut se mentir pour rester sane. Parce que le réel est fade, donc des fois je m'évade. Plié dans mon canapé, mon cendrier plein, mon tablier crade. Il paraît que je suis malade, je bossais pour un jour pouvoir brandir les crins. Maintenant qu'il y a plus de nous, je suis paumé, je sais pas à qui l'offrir. J'étais nocif pour elle, maintenant je suis libre pour prêtre, je suis prêt. Le réel est fade, alors je m'évade. Plié dans mon canap, mon cendrier plein, mon tablier crade. Il paraît que je suis malade. Le réel est fade, plié dans mon canap, mon cendrier plein, mon tablier crade. Il paraît que je suis malade. Alors je m'évade. Plié dans mon canap, mon cendrier plein, mon tablier crade. Il paraît que je suis malade. Le réel est fade. Plié dans mon canap, mon cendrier plein, mon tablier crade. Il paraît que je suis malade.
Oh les filles.
Oh les filles.
Oh les filles.
Oh les filles, une chronique féministe des radios associatives des Hauts-de-France.
Oh les filles.
Épisode 4 des chroniques Oh les filles, autour de la thématique du sport. Promenade avec Alessandra Machado, membre fondatrice de l'association lilloise Passerelle, qui propose des activités sportives à l'intention des femmes dans plusieurs quartiers de la métropole. Nous sortons d'un cours de football à la Fabrique du Sud, dans le quartier de Lille Sud. Équipée de son vélo, elle m'accompagne jusqu'à la halle de glisse. Je redescends encore un peu de l'ambiance festive et hors du temps, dans laquelle j'ai baigné pendant une heure.
J'ai le badge.
Eh, là c'est moi qui vas te le
faire. C'est cool, j'adore l'ambiance.
Ah, c'est
comme ça tout le temps.
Oui.
C'est chouette.
Oui, c'est un band de nanas qui se retrouve pour faire du sport avec une volonté d'avoir du plaisir, de la joie, de la puissance commune, de se regarder par rapport à où nous sommes, qui nous sommes, et se soutenir et s'entraider, et se regarder comme des êtres humains que nous sommes, diverses, multiples et riches. C'est ça, ce projet associatif. C'est pas que du sport, tu vois. Le sport, c'est juste un outil, en fait.
Ouais.
C'est un truc en plus. C'est un moyen, tu vois. C'est pas une fin, en fait.
C'est pour déclencher tous les mécanismes de... Après, derrière, de joie, de bonne humeur, de bien-être corporel, de communauté aussi.
Oui, c'est exact. C'est la joie de se reconnaître dans l'autre. Il y a des études sociologiques sur la question de la communauté qui expliquent un peu la longévité. Et un des facteurs de la longévité, c'est se faire communauté. Donc c'est connaître l'autre par rapport à ton histoire et savoir que tu peux compter. Cela est sécurisant, en fait. C'est presque un antidépresseur de connaître l'autre, quel que soit l'autre, et sentir que, voilà, je me sens... accueilli, écouté. Ouais.
C'est la question de familiarité, de franchir l'inconnu et familiariser tout un environnement, ça aide aussi à sentir bien.
Alors, je ne sais pas si c'est là le déclencheur de cet état de confort en faisant communauté et qui n'est pas forcément lié à inconnu. Ça peut être aussi dans l'inconnu, parce que tu vois, dans nos collectifs, on a des inconnus. Tu as si bien, Charlotte, que Aïcha, que Sandrine, que la nouvelle que j'ai oublié le nom. Enfin, des blondes, des brunes, des noires. Enfin bref, il y a quand même une diversité d'identités multiples là-dedans. Et pourtant, il y a quelque chose qui nous relie et qui nous fait fait en sorte qu'on se sente en commun. Communauté, vous dire ça, hein, c'est vraiment la réunion des communs. Et en fait, en commun, tu as un moment commun, une activité commune, une action commune, un moment, un regard qui nous relie. D'abord parce qu'on est des êtres humains qui ont envie de s'entendre, qui ont envie de dire, qui ont envie de de vivre des choses en commun. Je pense qu'on manque rudement dans nos sociétés modernes des communs, des espaces communs qui ne soient pas... Bon, ce que j'ai vécu, l'association elle a été créée un peu pour ça aussi, parce que en arrivant à Lille, je viens du Brésil, et je n'ai pas retrouvé... vraiment, j'ai retrouvé des espaces communs, mais dans lesquels il y avait des communs trop communs, enfin les gens les mêmes. J'ai engagé dans des associations féministes, par exemple, depuis des années, et c'est toujours un peu les mêmes populations. Et dans les lieux de culture, pareil, c'est toujours les mêmes. Et moi, ce qui m'enrichit, en tout cas, ce qui, je pense, fondamental pour la réflexion collective de bien vivre et même d'évolution, c'est d'autres points de vue, d'autres langues, d'autres identités, d'autres visions du monde, d'autres coutumes. Moi, ce qui me pense, enfin, ce que je me semble fondamental pour l'évolution de tout un chacun, c'est justement, bien sûr, se nourrir de ce qui est connu, mais aller chercher de l'inconnu une réflexion de ce qui est connu.
Là, t'es obligé de faire les coups, hein.
Ah ouais,
ah ouais, t'es obligé, allez.
Je pose mon micro.
Allez.
Allez. Moi, j'ai pas votre échauffement.
Hein?
J'ai pas fait l'échauffement, moi.
C'est juste penser. Allez.
Attends, je pose ça quand même. Et donc l'association Passerelle qui a été créée en 2010, c'est là la volonté d'inclusivité, d'interculturalité, c'est pour pouvoir réunir tous les prismes différents de toutes les femmes et créer cette ambiance-là dont tu parles.
En tout cas, être facilitatrice de ce que tu as vu.
Ouais.
On n'a pas de prétention de faire plus ni moins que quiconque. On sait qu'on favorise ces espaces dans ce qu'on a de plus puissant dans notre démarche. C'est que l'activité fédère, l'activité donne... Et puis après, il y a quand même tout un contexte de démarche pédagogique dans laquelle je ne me sens pas ni jugée, ni avec quelqu'un qui donne du savoir et je reçois. Il n'y a pas de... Ce n'est pas descendant. On est vraiment de ce qu'on appelle l'andragogie, c'est la pédagogie des adultes. Et donc les pédagogies des adultes, on fait avec ce qu'ils ont pour les amener à l'évolution de la compréhension de ce qu'ils peuvent faire, eux. Donc je pense qu'il y a aussi l'aspect pédagogique qui est très important. Il ne suffit pas simplement de créer des espaces. Il faut aussi générer quelque chose dans lequel c'est une transmission circulaire de capacitation ou de prise de conscience des capacitations. Et à cet endroit-là, il y a quelque chose qui se déclenche, qui est joyeuse, qui est nourricière, qui est puissante.
L'utilisation de l'aspect du collectif, c'est aussi pour faire sortir des bénéficiaires de l'association ce qu'elles ont en elles. Et au final, ce que tu dis, c'est pas un savoir à sens unique, unilatéral.
Aucun cas. Moi, je prétends rien. Je prétends aucun. Je ne sais rien. Plus je sais que je ne sais rien et que je dois apprendre plus. Par contre, je sais ce que je ressens. C'est pas que je sais, c'est que je ressens. Je ressens une extrême puissance chez les femmes, particulièrement les femmes qui ont été dans un parcours de résilience ou d'invisibilité sociale. Il y a une forme de dépassement parce qu'elles ont dû créer autre chose pour vivre différemment. Et donc je ressens quand même dans les quartiers une forme de puissance liée à la résilience d'exister socialement. Et donc c'est plus nourricier, c'est un environnement qui est nourricier. Je pense à travers les temps, j'ai dû analyser tous les rapports entre femmes et toutes les choses qui peuvent se reproduire dans ces dynamiques de domination, parce que nous vivons dans un système patriarcal dominant qui génère des comportements dominants et on est toutes concernées en fait. Il ne faut pas dire on est mieux que quiconque parce qu'on le sait. Justement, tu sais, mais des dispositifs ils sont imbriqués dans ton fonctionnement. Mais par contre, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de la résistance face à des dominations masculinistes ou patriarcales puissantes, dans lequel il y a une forme de rassemblement qui se crée, tu vois, on ne peut que... J'ai vécu ça en Amérique latine, c'est les femmes se rassemblent pour tenir à un système qui est tellement isolant et violent qu'elles deviennent, par de fait, des sœurs. Elles savent qu'elles doivent se protéger les unes aux autres parce qu'à n'importe quel moment, il y aura une situation dans laquelle elles vont être dépendantes les unes des autres pour manger, pour... pour élever les enfants, etc. Tu vois, donc je pense que ça vient de ce ouais. truc de domination qui génère un comportement de...
Une solidarité de survie, au final.
Absolument, ouais. Chose que les occidentales n'ont pas forcément besoin, parce qu'il y a, bon, malgré le fait qu'on a beaucoup de choses qui doivent évoluer dans la situation des femmes dans le monde, en Europe et en France, mais je pense qu'en Occident, il y a quand même des conquêtes qui ont été acquises, et aussi des réalités économiques qui amènent les femmes à jouer le jeu de patriarcat et de système de domination. Elles reproduisent aussi, parce qu'elles aussi, elles posent les couilles sur la table, tu vois, parfois. Donc...
Tu disais tout à l'heure que le sport, l'activité physique, c'est seulement un outil pour réussir à fédérer tout un groupe. Qu'est-ce que ça apporte de différent que, par exemple, un temps de discussion? Qu'est-ce qui se passe pendant ces séances?
Le corps. Le corps parle. Le corps est un... Le sport n'est pas un truc inclusif par excellence, hein, parce qu'il est compétitif, parce que le sport, comme on entend, c'est Coubertin, donc plus misogyne, tu crèves. Donc c'est pas du tout un outil d'inclusivité, parce qu'il y a le premier, le deuxième, le troisième et tout le reste. Donc c'est, tu vois, le sport compétition n'est pas, lui, forcément, d'ailleurs, pas du tout, parce que c'est la performance, etc. La performance, c'est pas quelque chose d'inclusif, évidemment.
La question de validité
du
corps.
Oui, voilà, tout ce bordel-là qui, pour moi, j'aime pas le sport comme ça. Ça m'intéresse pas du tout. Par contre, mettre le corps à parler, le corps à se dire que mon corps est capable de plein de choses. Mon corps, quel que soit le corps, t'as vu combien de corps il y avait là? Tous les corps, ils sont capables. À des degrés différents de besoins et d'exigences, ou même de dépassement, ou même d'expérience, tous les corps sont capables. Et donc je pense qu'il y a tout un travail sur la diversité, encore une fois. Tu vois, moi je suis très écosystème et je pense que... Enfin je ressens en tout cas, je ressens plus que je pense que les écosystèmes qui tiennent la route, c'est les écosystèmes divers. Multiples. Tu vois, je pense que on devait penser à la permaculture humaine. Tu vois, qu'on puisse se nourrir les uns les autres. Penser aussi le fait que le mycélium, là, c'est cette grande découverte de l'humanité, est une communication entre cet arbre que tu vois et l'autre qui est tout au bout pour se soigner, se soutenir. Et nous ne sommes pas mieux que le mycélium. Tu vois, nous sommes tous interliés quelque part et que. Voilà, je pense que la diversité, je sens plutôt que je pense qu'un besoin de multiplicité de corps peuvent nous donner des idées plus variables sur ce que nous sommes et sortir des injonctions. Putain, les meufs, elles ont tellement déjà des injonctions à tous les endroits. Et donc, tu vois, s'il faut vraiment aimer complètement avoir 115 kilos ou être mince, ou c'est tout ce qui génère des injonctions, pour moi, c'est contre-productif.
Se réapproprier collectivement la capacité corporelle et sportive pour surpasser les injonctions et surtout le faire dans l'inclusivité des corps, des origines, des cultures, des générations, plus localement des quartiers. C'est ce que Passerelle tend à faciliter. Ce que je retiens le plus de cet échange avec Alessandra, c'est qu'on ne trouve pas l'égalité sans inclure dans la démarche l'intersectionnalité, cette notion sociologique qui décloisonne et lie entre elles toutes les formes de discrimination et d'oppression. Le sport est un moyen et pas une fin, comme le précise Alessandra, pour effectuer ce travail et faire corps.
Oh les filles!
Oh les filles!
Oh les filles!
Oh les filles!
Oh les filles, une série de chroniques réalisées par les radios de la France en partenariat avec la Direction régionale aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes des Hauts-de-France.
Oh les filles!
À réécouter sur france.fr.